Bonjour à tous. Salutations de l'église de Pierrelatte, église CEF, comme ça a été dit, église sœur. Nous sommes venus ce matin avec Marie Solmé juste à deux et nous avons laissé nos trois enfants juste pour la journée, qui sont donc âgés de 15 ans, 13 ans et 7 ans, et que nous retrouverons tout à l'heure. Et en même temps que je vous salue, je vous salue de la part de l'église de Pierrelatte, je prends ma casquette de pasteur jeunesse de notre pôle jeunesse de l'Union CEF pour, avec la première affiche, vous annoncer, peut-être ça peut intéresser parmi vous quelques-uns, pour vous annoncer cette masterclass dans 8 jours sur le développement de l'enfant. Le développement précisément de la foi de l'enfant et du jeune, et nous verrons qu'il y a différentes phases avec des particularités dans ces différentes phases. Un peu des saisons de vie. Des saisons de vie. Et ça nous permet de faire la transition, le lien avec, je peux le prendre la main, avec le thème de ce matin que je vous propose. Sème Dieu et tu récolteras Dieu. Sème Dieu et tu récolteras Dieu. Une autre manière de parler de cette introduction, c'est de parler de l'art de vivre nos saisons de vie avec Jésus. Alors, vous connaissez la pizza aux quatre fromages. Est-ce que vous connaissez, moins connu, les quatre saisons de Vivaldi? Les quatre saisons de Vivaldi, vous connaissez, je vois des... Bien sûr, qui ne connaît pas les quatre saisons de Vivaldi presque aussi bien que les quatre fromages de la pizza. Alors de quoi ça parle, les quatre saisons de Vivaldi? Ce sont quatre concertos pour violon composés vers 1720. Aucun d'entre nous n'y était, a priori. Avec chacune de ces saisons, une concentration, un élan particulier qu'imaginait Vivaldi. Il imagine quelque chose de très novateur pour son époque, puisqu'à travers la musique et ces fameuses quatre saisons, il vient parler de la nature, mais aussi du temps qui passe et de la vie humaine. Et ce qu'évoque chaque saison, c'est tout d'abord le printemps où la musique est légère, c'est ce qu'on entend là ici, vive, pleine d'élan, c'est le réveil de la nature, le chant des oiseaux, les ruisseaux, la joie, la fête. C'est le temps du renouveau, de l'espoir qui revient, la croissance visible, de la vie qui reprend le dessus. Puis l'été, la nature est à son apogée, les plantes grandissent, les fruits mûrissent, la lumière est abondante, de la chaleur, de l'énergie, de la vitalité. Mais parfois, l'orage d'été peut être violent. Et c'est pourquoi, de vive qu'elle est au début, la musique devient tendue, parfois oppressante. Et l'automne, la musique est joyeuse, rythmée, puis calme et paisible. C'est la nature qui ralentit, donne ses fruits avec le temps de la récolte, les danses paysannes, le vin, le repos après le travail. On se retourne sur ce qui a été et on apprécie. L'hiver, la nature se repose, le froid s'installe, la croissance est en pause, du moins en apparence. Repos, silence, régénération, protection de la vie, temps calme, froid, vent, glace, immobilité, apparente absence de vie. Mais aussi, par contraste, la chaleur d'un foyer, de la cheminée, tant appréciée. La musique alterne entre dureté, frisson et douceur intérieure. Le sens profond de l'œuvre, c'est que Vivaldi ne décrit pas seulement la météo, le temps qu'il fait, mais aussi le temps qui passe. Il met en musique l'expérience humaine à travers l'évocation de la nature. Les quatre saisons évoquent en effet le rythme naturel de la vie, les joies et les épreuves, le cycle inévitable du temps qui passe. Elles montrent aussi que chaque saison a sa beauté. Chaque saison a sa beauté, même si certaines sont plus défiantes que d'autres. Chaque saison a sa beauté. Et c'est de cela dont il va être question ce matin. Des saisons, de l'art de les vivre pleinement et chacune avec Jésus. Ça va pour vous? Alors, on va pas écouter les 40 minutes de Vivaldi. Et normalement, je devrais avoir fini avant la fin des 40 minutes. Mais focalisons maintenant, si vous voulez bien, sur les saisons, cette réalité inhérente à la vie ici-bas. Que de saisons dans une vie entière. Des saisons de toute durée, des saisons qui s'enchaînent. À la naissance de notre première fille, une maman a attiré notre attention avec cette parole étonnante. « Pour votre fille, vous êtes comme Dieu. De vous dépend sa survie. » Dans la série, ça met un peu de pression. On commence bien la parentalité. Et quelques années plus tard, je revois ses premiers pas hésitants sur le chemin de l'école. Une grande étape pour elle, tout autant que pour nous. Puis, vous avez observé aussi l'hésitation de l'élève arrivant en CP ou en 6e, qui contraste avec l'assurance de ce même élève quelques années plus tard, lorsqu'il arrivera en dernière année d'école primaire ou de dernière année de collège ou de lycée. Puis du temps est passé et progressivement, nos adolescents s'autonomisent et s'affirment, choisissant de plus en plus par eux-mêmes. Je pense à notre ado, elle déconstruit ce qu'elle a reçu, phase déstabilisante, pour ses parents en tout cas, probablement pour elle aussi un peu, mais carrément normale et importante. Elle essaye, elle jauge, de plus en plus, avec son propre regard, elle expérimente. Et c'est bon, c'est important. Peut-être pas tout, mais sur le principe, c'est important. Et elle nous fait comprendre que cela n'est plus la meilleure idée du monde de venir la chercher jusqu'au gymnase, quand elle a terminé le sport. Et même que c'est beaucoup, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup mieux si papa et maman restent dans la voiture, sur le parking, assez loin du gymnase. Un jour viendra, Dieu voulant, l'entrée dans la vie professionnelle, un nouveau début où il faudra faire ses preuves et persévérer avant peut-être de progressivement s'expertiser. Alors vous l'avez remarqué, au cours de certaines saisons, nous avons grandement besoin des autres. Et à d'autres moments, d'autres ont grandement besoin de nous. Plus tard, nos chers seigneurs, pourtant aguerris et assagis par l'expérience, et alors qu'ils ont entrepris au cours de leur vie des choses fantastiques, réalisé des exploits insoupçonnés dans la vie personnelle, professionnelle, ecclésiale, associative, et que sais-je. Et bien plus tard, des choses qu'ils faisaient si facilement ne sont justement plus faciles pour eux. Les saisons. Bref, depuis notre naissance jusqu'à notre fin de séjour sur Terre, nous passons tous par des enchaînements de saisons. Des saisons inhérentes à la vie ici-bas. D'autant que plusieurs parmi nous, peut-être la plupart dans cette salle, au cours de ce voyage sur Terre d'une durée inconnue, suite à leur réponse favorable à l'appel gracieux du Dieu de Jésus, le Rédempteur, connaîtront un avant et un après, générant une nouvelle saison, une nouvelle manière de vivre les différentes saisons. Et là, je parle ici, vous l'avez reconnu, je parle de la vie nouvelle. Et peut-être que vous pensez, en écoutant ces propos d'introduction, vous pensez à l'Ecclésiaste, pas forcément celui de Matrix, mais l'Ecclésiaste inspiré de la parole de Dieu. Vous connaissez ce récit, ce texte, cette philosophie de vie. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. quelques mots sur ce texte qui nous parle des saisons. Il nous dit que ce qui est valable et pertinent un jour, durant une saison en particulier, ne l'est plus forcément pendant une autre saison, en fonction du contexte et inversement. On doit s'adapter. Tantôt on arrache les mauvaises herbes, le péché, et on démolit une construction dangereuse, mais tantôt on plante un arbre, des fleurs ou l'amour, on bâtit. Tantôt on laisse éclater sa joie et on éclate de rire, mais dans un autre contexte on verse des larmes, on porte des deuils de situation, de rêve, d'attente, d'exigence, de personne. Bref, le contexte, la situation et la manière importent pour discerner ce qui, selon Dieu, est tantôt sage et vital de faire ou de ne pas faire, de ne plus faire. Alors, quelle utilité pour les saisons ? À quoi servent les saisons ? Vous vous posez la question aussi, vous l'avez déjà posée. Une saison sert, que ce soit dans la nature comme dans la vie, à permettre un développement équilibré. Chaque saison prépare la suivante. On ne récolte pas sans avoir semé. On ne repart pas sans s'être reposé. Les sportifs de haut niveau le savent aussi. Les saisons servent aussi à donner un cadre et un rythme. Les saisons évitent la confusion et l'épuisement. Elles apprennent que tout ne se vit pas en même temps. Il y a des choix, il y a des particularités. Les saisons favorisent aussi la transformation. Elles permettent d'effectuer des changements progressivement. Croître, mûrir, laisser tomber, se régénérer. Elle nous aide à apprendre l'acceptation et la patience. Accepter que certaines choses requièrent du temps. Que tout ne dépend pas de nous. Que les périodes difficiles ont aussi un sens. Bref, une saison est un temps donné avec un ou plusieurs aspects, peut-être un rôle aussi précis, au service d'un cycle plus grand. Elle n'est ni inutile, ni définitive. Elle prépare ce qui vient après. Alors la question suivante se pose. Est-ce que nous choisissons les saisons ? Est-ce que nous subissons les saisons ? Eh bien, peut-être l'un et l'autre. Même si nous sommes capables d'amorcer des nouvelles habitudes et d'effectuer des choix significatifs, nous faisant ainsi entrer dans des saisons particulières, ce n'est pas toujours nous qui déterminons les cycles et les saisons de vie. Les saisons font souvent partie des éléments de la vie que nous ne contrôlons pas. Si je ne dis pas de bêtises, dans 8 jours, c'est l'été, et ça, nous ne le contrôlons pas, ni l'arrivée, ni la fin de l'été. Dans nos latitudes, ça ne dépend pas tout à fait de nous. D'ailleurs, la météo non plus. La météo non plus, nous n'y sommes pas vraiment pour grand-chose. Comme dirait le prince William, autant apprendre à marcher sous la pluie. En réalité, ce n'est pas lui qui l'a dit. J'ai cru que c'était lui, mais c'est un chanteur, Goldman, qui suggère dans sa chanson intitulée « La pluie », qui suggère que nous pourrions être bien intentionnés d'apprendre à choisir de marcher sous la pluie, plutôt que de rester cloîtré chez nous. Et moi qui ai vécu quelques mois en Angleterre, j'ai bien compris ce que ça signifiait. J'ai même fait des pique-niques sous la pluie, pour vous dire. Tous debout avec nos ponchos, pique-niquer debout sur l'herbe sous la pluie. Bref, je m'égare. Et finalement, d'apprendre à marcher sous la pluie, c'est d'apprendre à collaborer avec l'Esprit Saint. C'est la marche avec l'Esprit de Dieu. Et dans cette saison, alors, de nombreux fruits sont à cueillir. À nous d'être attentifs lorsqu'on sait apprécier, lorsqu'on apprend à marcher sous la pluie. D'ailleurs, si marcher sous la pluie, ça ne nous intéresse pas, nous, beaucoup ici, peut-être en Occident, il y a d'autres contrées dans le monde où on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il pleuve, pour dire. Est-ce que les situations déconcertantes de nos saisons nous peuvent forger en nous, peuvent être considérées comme de véritables trésors de guerre ? Je vous regarde, on ne se connaît pas tous, mais je vous regarde et je fais le pari que beaucoup d'entre vous avaient déjà accumulé des trésors de guerre. Des trésors spirituels de guerre. Ainsi en est-il par exemple en hiver, où j'apprends que si les feuilles ont disparu sur les branches dénudées, les racines, quant à elles, poursuivent leur croissance. On ne le voit pas. C'est silencieux. Discrètement, à l'abri des regards, sans bruit, leur croissance est réelle. Leur étendue sera d'autant plus précieuse plus tard, car fortifiant le tronc et l'ensemble de l'arbre. Une véritable aubaine, en réalité, pour quand viendront les vents impétueux du Mistral ? Il y en a ici aussi, le vent impétueux de futures épreuves. Alors au moment d'arriver sur ma quatrième et dernière partie, je dirais qu'il y a des choses qu'on ne choisit pas du tout, mais ce que nous choisissons, c'est la manière dont nous traversons la saison qui se présente à nous. La manière dont nous choisissons de traverser la saison. Et c'est ce que j'aimerais développer dans cette dernière partie, intitulée tout simplement « Sème Dieu et tu récolteras Dieu ». Ils ont semé du vent, ils récolteront la tempête. Vous savez de qui vient cette phrase ? Ce n'est pas MC Solar, mais la reprise, le filou, il y a 20 ans ou 25 ans, c'est Osée, le prophète Osée. Ils ont semé du vent, ils récolteront la tempête. Je lis aussi Paul qui dit « Celui qui sème dans le champ de l'esprit moissonnera dans l'esprit de la vie éternelle ». Magnifique. Vous connaissez cette loi des semailles. Chaque jour, nous semons, consciemment, inconsciemment, et ce que nous semons aujourd'hui aura demain, après-demain, des répercussions, plus ou moins grandes, plus ou moins belles, plus ou moins éternelles. C'est la loi des semailles. Je dis souvent à mes enfants, ton avenir, tu ne le construis pas quand tu sors du lycée. Ton avenir, tu as déjà commencé de le construire. Ta manière de vivre ton présent détermine ce qui est devant toi, en partie. En partie. Et puis, nous n'oublions pas que quand nous sommes défiés par la tournure que prend une saison et que les choses ne s'y passent pas toujours comme nous le voudrions, c'est-à-dire, c'est souvent le cas, me semble-t-il, eh bien, Dieu, lui, reste fidèle. Dieu reste souverain. Dieu règne. Sa puissance, la souveraineté, la bonté de Dieu ne sont jamais, jamais, jamais altérées à l'égard de ses bien-aimés. On doit se le rappeler, se le redire. Rappelons-nous aussi que les épreuves, les crises ne sont réservées ni aux chrétiens ni à ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est le lot de tous les humains ici-bas. Quel personnage biblique aurait évité les crises ? Vous pensez à un personnage biblique qui a évité les crises ? Élie, Moïse, Job, David, Naomi, Ruth, Esther, Pierre, Jean-Baptiste, Paul, Marie, je peux continuer la liste, je l'ai faite mentalement, je ne peux pas tout vous dire, il y a trop de noms dans la Bible. Illustres hommes et femmes de Dieu, plus contemporains, et nous-mêmes, et ce que je veux dire là maintenant, on doit l'accueillir chacun paisiblement, nous passons tous par des crises. Réalité à ne pas fuir, Pas besoin de fuir cette réalité. Nous passons tous par des crises. Alors, il y a les crises de foi qui arrivent à la période de Noël, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Ou les crises de Pâques, je ne sais pas si ça existe aussi. Bien sûr qu'on ne les souhaite pas, les crises. On n'est pas fou à se dire vivement une crise. Mais c'est la réalité. Et j'aimerais suggérer deux livres qui, quelque part, m'ont rassuré, même réconforté, lorsque j'ai découvert que j'étais en train d'expérimenter une saison particulière, justement, avec chamboulement, bouleversement, point de rupture, bascule, secousse intérieure, etc., etc. Quand j'ai découvert qu'en fait, j'étais en crise moi-même. En lisant les descriptions faites dans le livre de gauche en particulier, j'ai découvert que j'étais dans une crise. Alors, ce n'est pas facile de parler de ces crises. Est-ce que le dimanche matin, vous avez des moments de témoignage? Nous avons dans nos églises, tiens, qui souhaiterait parler de sa crise? Allez, on va applaudir derrière. On n'aime pas parce qu'on a l'impression que quand on parle de nos crises, on parle de nos échecs. On n'aime pas parler de nos échecs. On n'aime pas montrer une facette de vulnérabilité que nous avons, n'est-ce pas? Donc, on préfère dire plutôt, ben moi, j'ai rempli ça cette semaine. Et pourtant, les crises font partie de notre réalité. Et justement, c'est peut-être parce que nous sommes chrétiens, si c'est le cas, dans un monde déchu, nous devrions apprendre à connaître, à reconnaître ces temps de crise pour les partager, pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres et qu'on puisse les voir comme des opportunités de sanctification, de croissance, pour le dire autrement. Ces crises font partie du chemin de la vie, et en particulier de la vie spirituelle. J'ai envie de dire, bon, ben puisque crise il va y avoir, va pour une crise, mais je rajouterai, va pour une crise avec Dieu. Va pour une crise avec Jésus. Va pour une crise avec Jésus. Alors justement, écoutons à ce propos Paul parler de ses crises. Paul, il a fait des crises aussi, hein, le héros de la foi, il a connu des crises aussi. Écoutons la manière dont Dieu nous tient dans ces bousculements et ces tempêtes. Nous portons ce trésor, là il parle de la lumière de Jésus-Christ, dans des vases de terre, ça c'est nous, afin que cette puissance extraordinaire, l'œuvre de Dieu, soit attribué à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur, Jésus, afin que la vie de Jésus aussi soit manifesté dans notre corps. Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Le Jésus Emmanuel qui a quitté la gloire pour nous rejoindre, ce Jésus s'est offert pour nous offrir l'éternité dans sa présence. C'est de ce Jésus dont nous parlons, et ben il n'est pas prêt de nous lâcher. Il n'est pas prêt de nous lâcher parce que nous le savons très bien, il ne sait pas faire nous lâcher. Dieu serait bien incapable de nous laisser tomber. Et inlassablement, inexorablement, il poursuit son œuvre. Le Dieu avec nous poursuit son œuvre. Il poursuit son ouvrage, sa taille, la taille de l'orfèvre qu'il est, pour rendre le diamant plus précieux encore. Ou la taille du raisin que Jean nous présente dans son 15e chapitre pour que nous portions davantage de fruits encore. D'où l'importance de discerner sans nous fier à notre vue qu'à notre foi, puisque c'est par la foi que l'enfant de Dieu avance, eh bien, le juste vivra. Le juste vivra par la foi. Une parole très simple et si précieuse à la fois. Si précieuse à la fois dans tous les sens du terme. Le juste vivra par la foi, par la confiance en Dieu. Chaque semence de Dieu donnera une récolte de Dieu, même si tu ne le vois pas aujourd'hui. Chaque semence de Dieu donnera une récolte de Dieu. Mon cœur est un peu comme un champ dont je porte la responsabilité. Comment vais-je investir ce champ ? Comment est-ce que j'investis chaque jour ce champ ? Comment je saisis la journée que mon Créateur me prête ? Comment je rends féconde les heures que Dieu me confie ? Avec quoi ? Qu'est-ce que je sème ? C'est magnifique comme question à se poser. Et nous avons une double responsabilité. D'une part, déjà donc par rapport à ce que nous semons nous-mêmes dans ce champ. D'autre part aussi parce que nous laissons ou parce que nous retirons des graines semées par d'autres que nous ne voudrions pas parce qu'elles ne sont pas éternelles et nous ne voudrions pas qu'elles soient semées dans notre champ. Ça signifie que si tu sèmes avec Dieu, si tu sèmes Dieu, en sa saison, tu récolteras avec Dieu. Semer Dieu, semer avec Dieu. Je pense au psaume 1, « Heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit », c'est une manière de semer Dieu. Je pense aussi au psaume 103. Le psaume 103, vous connaissez ce psaume 103 qui est magnifique. Je lis juste le début. C'est une manière de répondre à cette question « Semer Dieu ». Bénis l'Éternel, mon âme. Quand on bénit l'Éternel, on sème Dieu. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. N'oublie aucun de ses bienfaits. Manière de semer Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Nous semons Dieu lorsque nous focalisons, comme nous le faisons depuis le début de ce culte, sur la grâce de Dieu. Ce que nous ne méritons pas, mais qui nous accorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir, etc. Semer Dieu, semons Dieu. Sème Dieu, tu moissonneras Dieu. L'inverse est vrai aussi. Si nous semons sans Dieu, nous récolterons sans Dieu. Ça ne sera pas des richesses éternelles. Ça sera des richesses paillettes, éphémères, comme le monde nous en propose tous les jours. Qui sème le vent, récolte la tempête. Comme je le disais tout à l'heure. Et ce que nous pouvons choisir, c'est déjà de considérer donc les crises de la manière suivante. Ne les gâchons pas. Ne gâchons pas nos crises. Ne gâchons pas les crises. Et donc on peut choisir par exemple de considérer les saisons dans leur diversité et leur particularité imprévisible comme une main tendue de la part de Dieu pour toucher notre cœur, peut-être le rendre plus docile à sa voix, pour lui laisser modifier nos regards, nos attentes, nos exigences. Peut-être aussi pour apprendre à moins espérer trouver dans les autres, quels qu'ils soient, nos chefs, nos profs, nos parents, nos enfants, nos conjoints, nos pasteurs, moins espérer en eux et davantage espérer en ce Jésus et en particulier dans ce que seul lui peut nous offrir. Ça s'appelle la formation continue. Nous pouvons aussi appréhender une crise comme une école de brisement du péché en nous, qui nous colle parfois à la peau sur certains aspects. Et il est bon de comprendre que rien de ce qui est fondamentalement éternel ne sera procuré par le monde. Mais les brisements les plus profitables peuvent nous libérer, nous délivrer, nous bénir, nous font renoncer à miser et espérer en nous-mêmes, nous font comprendre que rien n'est aussi vital que de crucifier notre ancienne nature, qui a tendance à vouloir garder la couronne de roi sur la tête, alors que la couronne du roi est celle de Christ. Les crises révèlent ce à quoi nous accordons de l'importance. Dans ce sens-là, elles sont précieuses. Est-ce que je m'attache à ce qui est vital ? Est-ce que je m'attache à ce qui est essentiel ? Donc c'est une opportunité pour re-questionner la hiérarchisation de nos priorités. Refaire de Jésus le centre névralgique de notre vie, dépendre davantage de lui. Et ça, ça va renouveler notre vision et notre enthousiasme. Donc si tu sèmes avec Dieu, tu récolteras avec Dieu. Et je pense à quelques récoltes possibles. Puisqu'elles nous aident, ces crises, à revisiter nos saisons, eh bien, elles produisent des fruits. Je pense par exemple à Martine. Je ne sais pas s'il y a une Martine parmi nous ce matin, mais ce n'est pas celle-là dont je parle, si jamais. Martine a dû apprendre que le Dieu vivant n'existait pas pour satisfaire tous ses besoins immédiats à elle, qu'elle n'était pas toujours à l'origine de ce que Dieu fait, mais que rien n'est aussi satisfaisant que lorsqu'elle replace Dieu au centre de l'univers et au centre de sa vie. Je pense à Amélian. Il n'y a pas d'Amélian ici, hein ? C'est bon. Il a dû reconnaître qu'il n'avait pas forcément toujours tout compris de ce qu'est l'Église, qu'il n'avait pas forcément toujours raison, qu'il pouvait y avoir peut-être d'autres manières de considérer les ministères, les manières de servir, ou l'Église de Christ. Il est brillant, Amélian, mais il a dû se rendre à l'évidence que malgré ses très nombreux classeurs théologiques ingurgités, non seulement il ne savait pas tout, mais qu'être si tranché et unilatéral dans ses avis ne favorisait ni l'amour fraternel, ni l'esprit d'équipe communautaire. Christine, elle a reconnu que son service cachait parfois la préoccupation de vouloir laisser une empreinte la plus visible possible dans le regard des autres. Et d'autre part, que son service masquait une désertion des responsabilités moins gratifiantes. Stéphanie, elle est tellement reconnaissante au Seigneur que sa dernière crise lui ait ouvert les yeux sur le fait qu'elle avait tendance à manipuler les autres pour obtenir ce qu'elle désirait. Mais en considérant les autres non plus comme des objets, mais comme des personnes, elle a commencé à expérimenter de nouvelles relations plus détendues, plus paisibles et plus joyeuses. Quentin, pour affronter avec Jésus sa dernière crise, eh bien, ça l'a aidé à savourer le fait que rien de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas, altère sa valeur en Christ. Et que rien n'est aussi précieux que d'apprécier la présence de Dieu au quotidien. Et c'est encore plus précieux que de recevoir des bénédictions de Dieu. Il a compris que l'Esprit Saint est suffisant dans toute situation, y compris dans la tourmente, l'inconfort, le manque de contrôle. Qu'est-ce que nous contrôlons dans la vie ? Quentin a aussi compris que le jour le plus important, c'est aujourd'hui. Pas seulement les événements à venir, les fêtes à venir. Des fois, je discute avec mes enfants, je leur parle d'un événement qui va venir, puis ils me disent « Ah là là !» Ensuite, là, surtout celui qui est le plus jeune, je ne donnerai pas son nom, 7 ans, il dit « Ah papa, je me réjouis, dans 3 mois, on a un truc là. » Il est tellement focalisé sur « dans 3 mois », parce que dans 3 mois, il va faire son goûter d'anniversaire avec ses copains. Et je lui dis, tu sais, Lucas, il y a des choses magnifiques à vivre avant, dans 3 mois. Mais des fois, on est un peu comme ça, nous aussi, peut-être, parfois. Être présent au présent. Le présent est un cadeau, paraît-il. Quelqu'un dit ça, je ne sais pas si c'est M6 Solar ou quelqu'un d'autre. Le présent est un cadeau à ouvrir. Un cadeau périssable, qui ne se conserve pas forcément, d'ailleurs. Ça, c'est M. Tupperware qui l'a dit, je pense. Alors, il arrive à Quentin de se sentir troublé. Il apprend à être content de l'état dans lequel il se trouve. Et ça, c'est formidable. Il apprend à apprécier que la nature a ses saisons. Il apprend que Dieu fait toutes belles choses en son temps. Il y en a d'autres. Je pense à Amanda, ce sera la dernière, rassurez-vous. Elle n'a pas été épargnée par les crises.
couple, enfant, santé, trahison professionnelle. Et par la grâce de Dieu, ces crises ont chamboulé ses idées personnelles quant à sa manière de vivre le quotidien pour lui ouvrir les yeux. Les yeux sur le fait que Dieu n'a jamais promis le paradis sur terre. Il l'a voulu avant la chute, jusqu'à la chute, il le voulait de toute façon. Mais la rébellion d'Adam et Ève, notre rébellion, font que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Voire pas du tout comme ça. Rarement comme ça. Et Amanda a pu apprécier, découvrir que Dieu ne la lâche pas au sein même de ses crises, de ses frustrations, de ses contrariétés, de ses déceptions inhérentes à la vie ici-bas. Elle découvre alors un chemin mille fois plus glorieux qui consiste à chercher à promouvoir Dieu en vérité, coûte que coûte, dans ce monde contaminé par la folie de l'enfer. Dans ce monde déchu, il y aura toujours des choses qui vont de travers. Vous avez remarqué des fois, quand on fait des bilans d'équipe, quand on fait des bilans de je ne sais quoi, des bilans de famille, ouais, ça c'était génial cet événement, ça vous a plu, ouais, c'est super, et il va y avoir quelqu'un qui va dire, ouais, mais en même temps, t'as l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas aller. Mais ça, un jour, ça sera terminé. Il n'y aura plus de place, ni pour le mal, ni pour le péché, ni pour les attitudes un peu ronchons. Mais ici-bas ne sera jamais le paradis, même s'il y a parfois de belles lucarnes. Le meilleur est à venir, mais il est ailleurs, et ça sera forcément dans la présence de Dieu. En attendant, et je vais conclure, en attendant, eh bien, la chose la plus belle, la plus sensée que nous puissions vivre, c'est de semer Dieu, quelle que soit ta saison. Sème Dieu et tu récolteras Dieu. On aurait pu dire sème Dieu, on aurait pu dire aussi aime Dieu et tu récolteras Dieu. Il y a peu de choses aussi satisfaisantes pour Dieu de voir nos caractères transformés un peu mieux à sa ressemblance. Alors j'ai vu cette citation de C.S. Lewis, parce qu'il n'y a pas que M.C. Solar dans la vie, et C.S. Lewis, il a dit « Notre Père nous rafraîchit le long de notre pèlerinage par quelques auberges agréables, mais il ne nous encourage pas à les considérer comme notre demeure permanente. » Dieu ne nous rencontre nulle part ailleurs que là où nous sommes, en particulier là où nous confessons être, afin de nous revêtir de sa force nécessaire pour avancer et pour tout traverser. « Je suis avec vous, dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. » Et ce Jésus qui dit « Je suis avec vous », il n'y a rien d'aussi précieux, il n'y a rien d'aussi vrai. Dieu t'aime, alors sème Dieu. Dieu t'aime, alors aime Dieu et tu récolteras Dieu. Je vais prier. Merci Jésus d'avoir annoncé haut et fort à tes disciples que jamais tu nous lâcheras la main, jamais tu nous laisseras tomber et que tu seras toujours avec nous. Je te prie pour chacun d'entre nous ici qu'on puisse refaire notre cette promesse. Tu es le Dieu qui ne ment pas, tu es le Dieu qui tient tes promesses. Pour chacun d'entre nous, tu es avec nous, jamais contre. Tu nous tiens la main, jamais tu nous la lâcheras. Tu ne sais pas faire. Tu restes fidèle. Encourage-nous, Seigneur, fortifie-nous pour qu'on puisse t'aimer comme cette réponse la plus sensée, la plus joyeuse à ton amour gracieux. Amen.